Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, apprends-nous à prier ». Cette question venant de la part d'un des apôtres étonne tout d'abord, d'autant plus qu'on ne se doute pas qu'il parle au nom des autres. Tout Israélite savait ce que c'était que la prière. Depuis son plus jeune âge, il avait appris à en réciter par dizaines. De plus, les psaumes si vénérés par les Juifs n'étaient-ils pas des prières? Pourquoi donc demandent-ils à Jésus ce qu'ils savent déjà? C'est que lorsqu'ils le voyaient prier, ils découvraient un aspect de la prière qu'ils ne connaissaient pas. Avec Jésus, c'était vraiment la communion avec Dieu. Ils sentaient alors combien étaient froides et vides leurs répétitions et leurs formules. C'était souvent du par cœur, mais le cœur n'y était pas. Et humblement, ils demandent au maître comment il faut prier. Jésus leur avait déjà dit quelques mots sur cette question. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. C'était en effet un spectacle qui leur était familier. Je vous le dis, ils auront leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il leur dit encore, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Et c'est ici qu'il dit, voici comment vous devez prier. Puis vient le Notre Père que nous connaissons bien. Nous pouvons constater que les hommes ne semblent pas avoir tenu compte de la recommandation de Jésus concernant les vaines répétitions, car le Notre Père est littéralement rabâché à tout propos comme une formule magique qui finira par attirer l'attention de Dieu sur celui qui l'utilise abondamment. Je ne veux pas dire que ceux qui récitent le Notre Père en guise de prière pour toutes les occasions ne sont pas sincères. Je rappelle seulement que selon le conseil de notre Seigneur, il est inutile de multiplier les récitations de formules de prière. Si nous avons pris cette habitude, ne nous faut-il pas, nous aussi, réapprendre à prier? Ne nous faut-il pas réapprendre que prier, ce n'est pas réciter des formules toutes faites, mais s'adresser à Dieu avec son cœur pour lui dire merci, pour l'honorer, pour le louer, pour lui confier une détresse, pour lui parler d'un fardeau, d'un souci, ou pour l'appeler au secours, et ce, avec le vocabulaire, la sensibilité, bref, avec l'expression qui nous est propre. L'apôtre Paul nous encourage à cette spontanéité sans laquelle il peut difficilement y avoir ferveur et sincérité. « Ne vous inquiétez de rien, écrit-il dans sa lettre aux Philippiens, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Examinons de plus près la prière modèle que Jésus propose à ses disciples. « Notre Père. » D'emblée, Jésus précise la nature du rapport qui existe entre l'homme et son Dieu. Il emprunte à la vie des hommes une image familière, la plus tendre de toutes. Dieu est notre Père. Nous pouvons l'appeler ainsi. Cette invocation est à la fois simple et profonde. Si Dieu est notre Père, nous sommes ses enfants. Nous formons une famille sous son regard. En l'appelant notre Père, nous nous souvenons qu'il nous aime, qu'il veut notre bien et notre salut. Il embrasse tout dans son amour, le passé, le présent et l'avenir, les vivants et les morts. Comme un père, il veut nous éduquer et nous soumettre à sa volonté, car il sait mieux que nous ce qui convient à ses enfants, même s'ils se raidissent parfois sous sa loi. Comme un père, il est attristé de voir ses enfants s'éloigner de lui pour échapper à sa volonté, et il souffre de voir les rebelles et les ingrats le renier complètement. Mais il accueille à bras ouverts ceux qui reviennent repentants. Comme un père, il doit exercer une discipline, et cette discipline prend souvent l'aspect d'une souffrance. Supportez le châtiment, nous dit-il dans sa parole, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? C'est pourquoi un enfant aime son père, d'un amour mêlé de respect et d'admiration. C'est ainsi que notre Père à tous veut être aimé et craint. En disant notre Père, Jésus nous montre aussi à qui toute prière doit s'adresser. Toute autre invocation, même sincère, même bien intentionnée, serait contraire à la leçon du Maître. Les Juifs n'avaient guère besoin qu'on insiste sur ce point, car ils savaient que seul Yahvé entend les prières. Ils avaient pourtant des personnages vénérés dans leur histoire, tels Abraham, l'ami de Dieu, tels Isaac et Jacob, et tous les prophètes, des géants de la foi. Mais leurs prières continuaient de n'être adressées qu'à Dieu seul. L'Église des premiers siècles, issue de la prédication des apôtres, avait conservé ce culte exclusif de Dieu. Les prières étaient offertes à Dieu seul, par l'intercession du Christ. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, insiste l'apôtre Paul. Autrement dit, personne ne peut présenter nos prières à Dieu, excepté le Christ. Lorsque vous chantez, dit Paul, chantez à Dieu, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Avant d'aller plus loin, il faut encore dire que c'est en Christ que nous pouvons vraiment devenir des enfants de Dieu. Hors du Christ, nous sommes toujours hors du cercle divin. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, écrit l'apôtre Paul. Et il ajoute, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il est encore écrit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Tant que par la foi et l'obéissance à Christ, nous n'aurons pas répondu à cet appel de Dieu, à son initiative à notre égard, nous ne serons jamais que des enfants rebelles. Ce point est très important, chers amis. Il mérite toute notre attention. Notre Père qui es aux cieux. À propos de ce ton très familier qui peut choquer certains croyants, vous savez peut-être que les textes bibliques ne comportent jamais, ni en hébreu ni en grec, le vouvoiement de Dieu. D'ailleurs, le pluriel de majesté n'a fait son apparition qu'en latin et vers le 5e siècle après Jésus-Christ. Pour plus de fidélité au texte original et pour mieux souligner que Dieu est une personne vivante à qui l'on parle directement, le tutoiement est de beaucoup préférable. Le vouvoiement ne s'est introduit dans le Notre Père des catholiques romains qu'entre 1618 et 1621. Après cette invocation, Jésus présente plusieurs pétitions. C'est le sens du mot « prière ». Elles sont au nombre de 6. Les 3 premières concernent Dieu lui-même, objet de notre adoration. Les 3 autres concernent les hommes, ceux qui prient. Voici les 3 premières. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite. Que signifie que ton nom soit sanctifié? Il ne s'agit pas ici du nom proprement dit. D'ailleurs, on ne peut pas dire que la Bible désigne réellement Dieu par un nom, mais plutôt par ses attributs. Il est le Seigneur, il est l'Éternel, il est le Créateur, il est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et fidélité. Il est juste et bon, source de lumière et de salut. Pour les Hébreux, le nom servait souvent à désigner l'être tout entier. Cette prière signifie donc « Notre Père, sois sanctifié. Que tout le monde te reconnaisse comme Dieu. Que ton règne vienne. » Certaines traductions disent « Que ton royaume arrive. » Or, qu'est-ce qu'un royaume? C'est une société de gens qui vivent sous l'autorité d'un roi, d'un chef, c'est-à-dire d'une loi. Lorsque Jésus prêchait son message, il annonçait que le royaume s'est approché. Il déclara même « Le royaume est au milieu de vous ». C'est vrai qu'en sa présence, le règne de Dieu était déjà présent et que par l'établissement de l'Église, quelques semaines après son ascension, le royaume était fermement instauré. Mais nous pouvons continuer de prier que ce royaume continue de grandir jusqu'à ce que tous les royaumes du monde se soumettent à la loi de Dieu, jusqu'à ce que la loi de Dieu rassemble tous les hommes de bonne volonté en une seule famille. Le règne de Dieu n'est pas simplement quelque chose qui arrive d'une manière soudaine et imprévisible, c'est plutôt quelque chose qui grandit comme une graine qu'on a plantée en terre. L'apôtre Paul dit d'ailleurs, « Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Que ta volonté soit faite. » Cette prière se rattache étroitement à la précédente, dont elle est presque corollaire. Dieu ne règne pas là où on ne se soumet pas à sa volonté. Puisse-t-il bientôt régner dans tous les cœurs? Cependant, il y a quelque chose de plus ici que la répétition d'une même idée. C'est que nous avons ici exprimé clairement l'attitude idéale de celui qui prie. Car prier, voyez-vous, ce n'est pas tenter d'obtenir à tout prix quelque chose de Dieu. Prier, c'est d'abord se mettre à la disposition de la volonté de Dieu. C'est reconnaître notre totale dépendance vis-à-vis de lui, ainsi que sa suprême sagesse. C'est se soumettre humblement d'avance à ses décisions, à ses jugements, à sa volonté. Trop souvent, Dieu n'entend pas nos prières, car il est trop flagrant que nous lui demandons d'accorder sa volonté à la nôtre. Nous lui suggérons de nous répondre comme nous l'avons décidé. Souvenez-vous de notre Seigneur au jardin de Gethsémané. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Nous abordons maintenant le domaine des nécessités humaines. Remarquez comment Jésus nous recommande d'en parler dans nos prières. Ce qui frappe, c'est la modération dans la formulation de ses besoins et la grande humilité qui s'en dégage. En disant « Donne-moi, je reconnais la grâce de Dieu, tout vient de lui. Le pain, c'est tout ce dont j'ai besoin pour vivre. Inutile d'encombrer la vie et d'apesantir l'âme par des soucis d'autant plus inutiles qu'ils concernent le superflu. Accorde-moi mon nécessaire, un jour à la fois, et je serai satisfait. » Jésus veut nous enseigner la confiance en la providence de Dieu. Mais dans notre société de consommation, les hommes n'éprouvent plus le besoin de prier pour ce pain quotidien, car il est très souvent assuré pendant des années. Et cette abondance même a tué en de nombreux cœurs toute pensée de Dieu. Leur ventre est bien rempli, leur vie plus que confortable, ils n'ont besoin de rien ni de personne, ni même de Dieu. « Prenez garde, avait dit Jésus, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour, c'est-à-dire le jour du jugement, ne vienne sur vous à l'improviste. Pardonne-nous nos offenses. » Le pardon, c'est le miracle de l'Évangile. C'est l'explication du mot « Évangile » qui veut dire « bonne nouvelle ». Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, telle est la promesse de Dieu. C'est avec un grand étonnement où se mêlent douleur et reconnaissance éperdue que Paul s'exclame « À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, Dieu nous demande de l'imiter dans son pardon. Pardonne à ceux qui te font du mal, comme moi je te pardonne lorsque tu me fais du mal. Jésus ajoute d'ailleurs, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » C'est à la fois une promesse et un avertissement, et c'est très clair. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Le mot « tentation » n'a pas ici le sens d'incitation au mal. Dans la Bible, il a souvent le sens d'épreuve, de souffrance. Jacques nous prévient à cet égard dans son épître. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Il dit aussi « heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à tous ceux qui l'aiment ». Dans cette prière, nous demandons à Dieu de ne pas nous soumettre à l'épreuve et à la souffrance, capable de nous éloigner de lui, de ne pas mettre notre patience trop longtemps à l'épreuve, mais d'intervenir au plus tôt. Jésus nous recommande aussi de ne pas sous-estimer la puissance du malin. Priez Dieu pour qu'il vous délivre de son influence, qu'il vous aide à le reconnaître sous ses déguisements et à déjouer ses plans. Le mot « Amen », qui clôture toute prière, est un mot hébreu, que nous redisons dans cette langue avec tout le peuple de Dieu en signe d'accord et d'unité. Puissions-nous trouver et favoriser l'occasion de le prononcer souvent.